Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Dans toutes les églises orthodoxes, vous allez retrouver une déesse sur laquelle il y a trois personnages importants. Le Christ, à sa droite, la Mère de Dieu, Marie, et à sa gauche, Saint Jean-Baptiste, l'ami de Dieu. L'Église marque ainsi l'importance donnée à ces trois personnes et au rôle immense qu'elles ont eu et qu'elles ont toujours dans la vie de l'Église. Ainsi, dans l'année liturgique, seules trois personnes ont une fête consacrée à leur naissance. Saint Jean-Baptiste, le 24 juin, la Vierge Marie, le 8 septembre, et Jésus, le 25 décembre. Et ces trois personnes sont les fondements de l'œuvre rédemptrice de Dieu pour l'humanité qui s'est détournée de lui. Nous avons entendu dans la première lecture la prophétie d'Isaïe qui annonce la venue de Jean-Baptiste, celui qui crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » C'est l'ange Gabriel qui est venu annoncer à Zacharie que sa femme Élisabeth allait être enceinte et qui a révélé le nom que Zacharie devrait donner, Jean. L'ange Gabriel fera de même avec Marie en lui donnant le nom de son fils, Jésus. Et à ce signe, nous voyons que l'un et l'autre, Jean et Jésus, entrent dans le plan divin du salut de l'humanité. Les parents de Jean, Élisabeth et Zacharie, étaient âgés et humainement, ils n'étaient plus en âge de procréer. Mais si vous avez remarqué, dans la Bible, c'est la même situation pour Abraham et Sarah. Abraham, le père du peuple élu, puisqu'on dit la race d'Abraham dans l'Ancien Testament. C'est aussi le cas pour Joachim et Anne, les parents de Marie. La stérilité que nous rencontrons dans ces grands personnages bibliques n'est pas une stérilité extérieure qui, par un tour de magie, serait vaincue. Ce serait une belle image, mais qui n'est pas très utile pour nous aujourd'hui. Comme nous le dit Annick de Souzenel, nous avons tous reçu en nous une graine divine, une image divine, qui ne pourra grandir et porter du fruit que si nous travaillons notre terre intérieure. Si nous allons vers cette fraction d'inaccompli, notre Isha intérieure, comme elle l'appelle, et que nous nous laissons travailler par la grâce divine. Autrement, cette graine restera stérile et l'image divine s'effacera de plus en plus. La vie humaine est fragile et éphémère, comme l'herbe et la fleur des champs qui se dessèchent et se fanent. Mais la parole de Dieu est nourrissante pour ce germe divin en nous. Elle demeure pour toujours, et notre travail est de nous nourrir de cette parole. Et ce fut le travail d'Abraham qui répondit à l'invitation de Dieu de se retourner vers son intériorité. Dans la Genèse, Dieu lui dit « Va vers toi ». Il lui dit d'aller vers lui-même pour mettre au monde son enfant intérieur. Ce fut aussi le travail d'Élisabeth et Zacharie qui se passa dans la prière et le silence. Ce fut le travail de Joachim et Anne. Chaque fois, l'écoute de la parole de Dieu permit à ces grandes figures bibliques de laisser grandir ce germe divin déposé en eux, et de vaincre ainsi la stérilité, tant intérieure qu'extérieure. C'est lorsque nous nous abandonnons à la puissance de Dieu et comptons moins sur notre propre puissance que ce travail intérieur peut s'accomplir et qu'extérieurement, un miracle devient possible. Cette foi, cette confiance en Dieu est parfois une épreuve, comme pour Zacharie, le grand prêtre. À la suite de l'annonce qu'Élisabeth serait enceinte, Zacharie doute, car elle est âgée. Il reste dans l'extériorité des choses. Et l'ange lui impose le silence et le rend muet. Ce sera pour Zacharie un temps de conversion, de retournement dans le silence. Et l'évangile d'aujourd'hui nous montre comment il retrouve la parole. À la demande du nom de l'enfant par les amis et connaissances qui voulaient lui donner le nom de son père, Élisabeth répond « Ce sera Jean ». Et Zacharie le confirme en l'écrivant sur une tablette. Jean, ou Yohanan en hébreu, signifie « Dieu est grâce, Dieu fait grâce ». Zacharie signifie « Dieu s'est souvenu » et Élisabeth, « Dieu est promesse ». Oui, Jean est le fruit de la grâce divine dont ses parents se sont laissés remplir, grâce qui leur a permis de labourer leur terre intérieure et d'ainsi vaincre leur stérilité intérieure et extérieure. Pour nous, cet enfant Jean-Baptiste est la préfiguration d'un autre enfant, Jésus, le Fils de Dieu. Zacharie, retrouvant la parole, annoncera dans le magnifique chant du Bénédictus que nous chantons régulièrement, la mission de son Fils. Il sera le précurseur. Son rôle dans le plan divin sera celui d'éveilleur, d'enseignant. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour lui préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, afin d'illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort et guider nos pas dans le chemin de la paix. Jean est face au Christ, comparable à la lune face au soleil. Sans le soleil, pardon, la lune ne nous apparaîtrait pas. C'est le soleil qui illumine, qui réchauffe, qui apporte la vie. La lune n'est là que pour nous indiquer la présence du soleil, même lorsqu'il est invisible à nos yeux. Jean-Baptiste est là pour nous montrer la lumière. Il est le témoin de la lumière. L'évangéliste Jean nous dira, « Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Dans les trois personnes, de Jean-Baptiste, de Marie et de Jésus, il y a un point commun, c'est l'humilité. Être humble, c'est reconnaître que Dieu est le laboureur de mon humus, de ma terre intérieure, que Dieu est celui qui la rend fertile. Toute la vie de Jean-Baptiste a été centrée sur l'humilité. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses chaussures. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et le rôle de Jean-Baptiste sera d'éveiller chaque homme à se souvenir de son humus, de sa terre intérieure, de la préparer pour faire éclore en lui le germe divin. Jean-Baptiste possède un don unique. Celui de pouvoir reconnaître la présence de Dieu, de reconnaître le Sauveur, l'agneau de Dieu. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, » dit-il en montrant Jésus qui venait à lui. Et en disant cela, il apporte la réponse à la question d'Isaac, dont à son père Abraham dans la Genèse. « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Et Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Jean-Baptiste, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Notre vie intérieure est souvent un désert que nous n'aimons pas visiter, tant il nous semble aride et rébarbatif. Et pourtant, c'est là que le Seigneur nous attend. Le désert nous fait peur par son silence. Et pourtant, c'est justement dans ce silence que Dieu peut nous parler. Jean-Baptiste est un craignant Dieu, comme l'apôtre Paul nomme ceux qui reconnaissent la grandeur de Dieu et se sentent humbles face à lui. Suivre le chemin de Jean-Baptiste, c'est pour nous devenir l'ami, l'intime de l'époux qui est le Christ. c'est se préparer à le recevoir pour qu'il puisse fertiliser notre terre intérieure et ainsi permettre à l'image divine déposée en nous de devenir toujours plus ressemblante à son Créateur. Tout le sens de Jean-Baptiste est résumé dans ces quelques mots qui devraient être l'axe de notre vie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen. Amen.